Eh bien, Éric Corbusier, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous présente rapidement. Vous êtes professeur d'anthropologie médicale à l'Université de Toulouse, Paul Sabatier. Vous êtes également membre de l'Institut universitaire de France et vous avez récemment été élu le Toulousain de l'année, justement pour votre rôle et l'importance de ce rôle dans les fouilles de Notre-Dame de Paris. Alors, vous êtes médecin et archéologue et vous avez travaillé un peu partout dans le monde sur la paléothanatologie, c'est la manière de faire parler les morts, en quelque sorte, de Madagascar jusqu'au delta de l'Alena, en passant quand même un petit peu par la France. Alors, vous êtes l'auteur de très nombreux articles spécialisés et d'ouvrages archéologiques, comme par exemple en 2017, L'énigme de la Yakoutie, ou encore Aux origines des rites funéraires en 2019. Et vous proposez aujourd'hui le résultat de vos travaux à Notre-Dame de Paris au travers d'une découverte assez extraordinaire et dans un livre intitulé « Le cavalier de Notre-Dame, l'enquête », qui se présente comme ce qu'on pourrait appeler une sorte de biographie poético-médicale de Joachim du Bellay. Alors évidemment, tout ça, ce livre tout à fait passionnant par l'enquête que ça représente, amène une foule de questions. Et d'abord, bien entendu, vous n'allez pas y échapper sur les fouilles de Notre-Dame. Comment et quand avez-vous été contacté pour cette intervention?
Alors, à la suite de l'incendie de Notre-Dame, l'Institut national de recherche en archéologie préventive, dès le lendemain de l'incendie d'ailleurs, à la demande de son président Dominique Garcia, a lancé toute une suite d'investigations, parce qu'il apparaissait qu'il fallait d'une part restaurer Notre-Dame et voire la reconstruire en partie. Donc, ce qui impliquait toute une série de travaux. Et c'est dans le cas de ces travaux que l'Institut national de recherche en archéologie préventive est intervenu. Et en ce qui me concerne, l'histoire est un peu plus ancienne, parce que nous étions intervenus avec mon collègue de l'Institut de médecine légale de Toulouse, Norbert Telmont, sur des sarcophages en plomb qui avaient été découverts en Bretagne et que nous avions ramenés sur Toulouse et autopsiés avec Rosenkölter. Et je dirais que avant la découverte de ces cercueils en plomb, juste l'ouvrage venait de sortir et qui donnait tout ce que nous avions trouvé sur ces sarcophages en plomb. Et en quelque sorte, nous en étions devenus les spécialistes. Et donc deux cercueils en plomb, en fait, ont été trouvés à la croisée du transept, c'est-à-dire là où le grand axe de la cathédrale croise son axe transversal. Et ces sarcophages, donc, ont été transférés au CHU de Toulouse, pour, je dirais, deux raisons essentielles. La première raison, c'est que nous étions à Toulouse et que nous, avec au sein du CHU, on disposait non seulement de toutes les capacités intellectuelles, mais aussi techniques, que ce soit l'imagerie, l'histologie, etc. Et dans un second temps, il était évident qu'un de ces sarcophages, on savait à qui il était, c'était celui du chanoine Antoine de Laporte, c'était marqué dessus. Et l'autre était un inconnu. Et la question qui se pose, en fait, c'est toujours la même, c'est de savoir quelle est la limite entre un sujet d'étude scientifique et une personne humaine. Il y a eu beaucoup de travaux à ce propos, et une des limites serait en fait le moment où cet objet d'étude scientifique devient un nom. C'est-à-dire que là, on n'est plus face simplement à des ossements avec un numéro, mais on est face à un nom. Et donc, Norbert Telmont, qui dirige l'Institut de médecine légale, souhaitait que ces restes soient traités comme ceux de vivants et qu'ils aient donc accès à un CHU, un institut de médecine légale. C'est donc là que nous sommes intervenus.
Quel a été votre travail précisément et quelles sont les découvertes médicales que vous avez pu apporter?
Alors donc, il y a eu, je dirais, l'ouverture de ces sarcophages qui a été réalisée en commun avec Christophe Beignet et son équipe de l'INRAP à Toulouse. Et donc, il fallait, je dirais, d'une part étudier les rites funéraires et d'autre part tenter d'identifier les squelettes. Alors, je sais qu'on ne parlera pas d'Antoine de Laporte parce qu'il a été rapidement identifié. Il y avait un nom, il était décédé à plus de 80 ans et on voyait tout de suite dans son sarcophage que c'était un sujet qui était très âgé. Et pour l'autre sujet, se posait la question de son identification. En effet, à la croisée du transept, il y a quelques tombes qui ont été trouvées, mais qui sont sans plomb. Il y avait ces deux éléments, ces deux cercueils en plomb. Donc, on était face à quelque chose d'assez exceptionnel. Si vous voulez, le grand axe de la cathédrale croise l'autre axe. Et surtout, ces tombes se trouvaient à l'époque, parce qu'on pensait déjà que celle-là datait du XVIe siècle, elles se trouvaient face à l'entrée du jubé. Et le jubé, c'est ce qui entourait, en fait, le cœur de la cathédrale, si vous voulez. et qui était dans l'endroit sacré. Et le cercueil était orienté légèrement en oblique et regardait juste la porte. Donc on était face à un sujet qui était un peu extraordinaire. C'est ça qui a attiré l'attention finalement. Et donc on a dû faire son identification. Donc l'identification médico-légale, ça se passe de façon, je dirais, assez classique. On peut déterminer un âge sur le squelette. Pour les enfants, c'est assez simple. Pour les adultes, ça devient un peu compliqué après 25 ans. Mais là, on avait de la chance parce qu'il n'y avait aucune trace. On savait qu'il avait plus de 25-30 ans. Il n'avait aucune trace d'arthrose. Et tous les indicateurs indiquaient un âge entre 30 et 40 ans. Donc ça, ça permettait de le cadrer parce que, comme nous le verrons par la suite, s'il avait eu plus de 50 ou 60 ans, ça devenait impossible parce qu'en fait, la plupart des gens inhumés dans la cathédrale avaient cet âge-là. Tandis que 30-40, c'était déjà quelque chose d'assez rare pour ceux inhumés à Notre-Dame de Paris. Et lors de l'ouverture du cercueil, on s'aperçoit tout de suite que son crâne a été scié. Et donc, on peut en voir l'intérieur. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant parce que si le crâne n'avait jamais été scié, on n'aurait jamais regardé l'intérieur, on aurait fait un scanner, mais ce que nous avons vu à l'œil nu, on ne pouvait pas le voir au scanner. Et il s'agissait en fait de petites réactions, si vous voulez, sur le crâne, les médecins appellent des réactions périostées, qui signifiaient qu'il y avait une inflammation contre l'os, et donc l'inflammation était due à ce qui touchait l'os du crâne. Ce qui touche l'os du crâne, c'est la méninge, qui est cette enveloppe qui protège le cerveau. Et donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que le sujet avait eu une inflammation de la méninge, qu'on appelle une méningite, et que ça avait touché suffisamment l'os pendant suffisamment de temps pour qu'il y ait cette réaction. Donc on est face à une méningite chronique. Et donc une méningite chronique, à cette époque, c'était souvent tuberculeux. Or justement, le sujet présentait au niveau de la colonne vertébrale deux atteintes de tuberculose osseuse. Donc on avait un sujet, finalement, qui était décédé entre 30 et 40 ans d'une méningite chronique tuberculeuse, et par le fait de certaines déformations au niveau de ses os, de son bassin notamment, on pouvait dire qu'il avait été un grand cavalier. Donc c'est d'où ce titre d'ailleurs du cavalier de Notre-Dame, parce que quand nous l'avons présenté à la presse la première fois, il n'y avait aucune identification, et je n'allais pas le présenter sous le terme le tuberculeux de Notre-Dame, si vous voulez, ça n'avait rien de poétique, et surtout c'était plutôt, je trouvais, même attristant voire insultant. Donc j'avais choisi ce terme de cet inconnu ou ce cavalier de Notre-Dame.
Mais là vous évoquez le fait que son crâne ait été scié, alors ça amène à des formes d'autopsie, ce qui, alors, est quand même un petit peu, on ne s'y attend pas. Est-ce que l'autopsie était si fréquente que cela à une époque qui est encore imprécise, mais vous avez commencé à parler du 16e siècle?
Alors justement, quand le cercueil a été ouvert, les études qui ont été menées par l'INRAP ont montré très rapidement qu'il y avait eu certainement une couronne de fleurs autour de sa tête, et en même temps le crâne avait été scié, si vous voulez. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'il s'agissait d'un embaumement ou d'une volonté plutôt d'autopsie? D'après les médecins légistes, la façon dont le crâne était scié était plus en faveur d'une autopsie. Et alors, les autopsies à cette époque étaient peu fréquentes, elles deviennent fréquentes par la suite, et surtout on n'en parlait pas trop parce que l'Église répugnait à ouvrir les corps. Ce qui fait que, par exemple, pour le roi Henri II, qui est décédé en juillet 1559 au cours d'un tournoi, il a été autopsié, mais Ambroise Paré et un autre médecin en parle bien des années plus tard de façon allusive dans un de leurs écrits. Le roi n'est pas nommé, mais tout le monde le reconnaît. Donc on était dans une forme de temporisation. Et là, on était face à un personnage qui, de toute évidence, avait été autopsié. Et donc, l'autopsie était, encore une fois, certainement liée au fait qu'il devait avoir cette méningite chronique.
Et qu'est-ce qui vous a amené sur la piste de Joachim du Bellay?
Alors, je dirais que, justement, quand j'ai écrit cet ouvrage, il y avait cette idée, si vous voulez, de montrer aussi au public comment se font les découvertes. C'est-à-dire que j'aurais pu entamer directement, de façon très docte, les résultats, si vous voulez. Et là, j'ai plutôt, par moment, je décris un peu comment j'y suis arrivé. Et ça s'est fait, en fait, par hasard. Ça s'est fait en plusieurs fois, mais la première fois résulté du hasard, C'est-à-dire que nous avions fait, à la suite de ces découvertes, une conférence de presse, et un film avait été commencé. Et donc, j'avais donné ces résultats, ce que je viens de vous exposer. Et un an plus tard, la personne qui réalisait le film, Florence Tram, souhaite refaire une séquence du film à Toulouse. Et là, elle me réinterroge, et je redonne le portrait robot, en quelque sorte, et je lui dis, mais qui est-ce? Elle me dit, mais on n'en sait rien. Je dis, mais comment ça, personne n'a regardé qui c'était, avec tout ce que j'ai dit en conférence de presse? Enfin, c'était peut-être un peu prétentieux, si vous voulez. Mais non, personne n'a regardé. Et un mois plus tard, tout à fait par hasard, à 8h moins le quart, un soir, avant d'aller manger, je frappe sur Internet Notre-Dame de Paris, tuberculose. Et là, je tombe sur un site qui dit Joaquin ou Joachim Dubelet, sur la façon dont on le prononce, a été inhumé à Notre-Dame, il est décédé d'une tuberculose. Or, il y a eu deux choses. D'une part, si vous voulez, dans un premier temps, on se dit victoire. Ça dure 2 secondes, quoi. Et puis ensuite, on se dit pendant 10 secondes, mais de toute façon, il y avait peut-être plein de gens qui mouraient de tuberculose à cette époque, etc. Et à partir de là, il faut faire toute une enquête pour savoir si cette première hypothèse peut être la bonne, c'est-à-dire quelle était la vie de Dubelet, est-ce qu'il avait souffert d'une tuberculose, est-ce qu'il avait été autopsié, à quel âge était-il décédé, et en même temps, on s'aperçoit qu'on ne sait pas où sont passés les ossements de Dubelet, donc il faut s'intéresser à ces circonstances de son inhumation, et surtout, qui d'autre était inhumé à Notre-Dame pour savoir s'il existait ce que j'appelle des doubles biologiques de Joachim Dubelet.
Alors, c'est là où ça nous amène, je dirais, à ce qui forme le, je dirais, non pas l'essentiel, mais une part très très importante de votre livre, c'est autour de Notre-Dame de Paris. Oui. Et je dirais, on peut même parler des arcanes de ce chapitre de Notre-Dame de Paris qui donne une impression de jeu de pouvoir. Et la première question qu'on a envie de poser, mais comment, par quel, je dirais, bonheur pour ceux qui en profitent, peut-on être inhumé à Notre-Dame de Paris?
Alors, c'est, je dirais, vous l'avez bien vu, je dirais le cœur un peu de cet ouvrage qui finalement porte sur cette enquête, mais qui est une façon de montrer effectivement comment fonctionnait Notre-Dame à l'époque et quels étaient tous les jeux de pouvoir royaux, mais aussi papaux, voire avec le pape, et qui se jouait. Alors, premièrement, Notre-Dame de Paris à l'époque était une des plus grandes seigneuries de France. C'est-à-dire qu'elle avait énormément de possessions et il se donnait par jour à Notre-Dame, en dehors des grands messes qui elle avait lieu dans le chœur, plus de 110 messes basses qui toutes évidemment étaient sujets à contribution et qui étaient là pour ceux qui étaient décédés. Donc ça rapportait énormément d'argent. Et Notre-Dame était organisée d'une façon très particulière. Elle avait en fait deux juridictions. Une juridiction de l'évêque, qui lui était nommé par le roi, et une juridiction du chapitre, constituée de 51 chanoines, qui, eux, étaient nommés par le pape. On s'aperçoit par ailleurs que pour devenir chanoine, alors chacune de ces attributions de chanoine était accompagnée de ce qu'on appelait de prébendes, c'est-à-dire de revenus. Et les revenus étaient très élevés. Non seulement de revenus, mais en plus de certains privilèges. On pouvait habiter dans ce qu'on appelait le cloître de Notre-Dame, qui était un endroit réservé. Et aussi, on était simplement soumis à la loi du chapitre, c'est-à-dire qu'on échappait aux taxes royales, on échappait à la loi du roi, et on ne pouvait pas être excommunié. Donc, à l'époque, on était véritablement sujet privilégié. Donc, pour être nommé chanoine, il fallait que le pape intervienne, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y avait des sous-mains, des pots de vin qui étaient donnés. Enfin, on n'appelait pas ça des pots de vin à l'époque, si vous vouliez. Enfin, à l'heure actuelle, ce serait des pots de vin. Et ensuite, le roi pouvait lui-même intervenir pour dire, etc. Et une fois, donc, c'était le chapitre qui décidait si on pouvait être inhumé à Notre-Dame, mais en fait, ne pouvait être inhumé à Notre-Dame que les nobles, que les chanoines eux-mêmes, les évêques, d'accord, et théoriquement, c'était tout. Alors, nous avons pu montrer qu'il y a eu certainement quelques nobles qui ont pu être inhumés. Alors ça se passait avant le XVIIe siècle. Après le XVIIe siècle, si vous voulez, il y a une espèce de démocratisation, enfin, toute relative. Hein. Je parle de démocratisation, je parle des grandes familles attachées au roi qui ont eu leur chapelle. réservé, etc. Mais au XVIe siècle, le règlement était très strict. Il fallait être chanoine ou évêque pour être inhumé à Notre-Dame.
D'accord. Mais alors, il faut donc être chanoine, ce qui amène à penser, évidemment, au réseau de Joachim du Bellay. Ce sont des réseaux, je suppose, familiaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette grande famille des du Bellay pendant que Joachim du Bellay vit?
Alors, vous avez raison, en fait, il faut bien voir qu'au XVIe siècle, alors Joachim du Bellay lui-même était une petite branche, je dirais régionale, d'accord, mais il appartenait en fait à la famille des du Bellay qui faisait partie du premier cercle royal et papal. D'accord. Il avait alors, on appelait, il y avait beaucoup de gens qui étaient appelés oncles. En fait, on appelait oncles et ils étaient en fait considérés comme tels, tous ses oncles véritables, mais aussi les cousins germains de son père. Donc, ce qui fait qu'il avait beaucoup d'oncles. Certains, comme le seigneur de Langeais, qui avait été les plus grands capitaines de François Ier, grâce à qui François Ier a gagné à Marignan, par exemple. Et surtout, il avait un oncle qui s'appelait Jean du Bellay, qui avait été évêque de Paris, et qui était cardinal, et qui, sur la fin de sa vie, était à Rome, doyen du Sacré Collège, c'est-à-dire second de l'Église catholique. Donc, il était dans un cercle qui était très important. Donc ça, c'était son cercle familial. Et lui-même, lorsqu'il décède, et donc c'est toute l'ambiguïté de la chose, n'était pas chanoine de Notre-Dame. Et il n'avait aucun titre pour être inhumé à Notre-Dame. Mais, justement, il va l'être parce qu'il a beaucoup de familles, enfin, pas mal de familles quand même inhumées à Notre-Dame. Et surtout, sa famille va demander qu'il le soit. Et il va l'être en respect de sa famille, mais on s'aperçoit dans les comptes rendus du chapitre qui vont s'interroger sur ces éléments-là. Et je me permets de rappeler, en fait, ces comptes rendus de chapitre étaient secrets, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas diffusés, ils n'étaient pas destinés à être diffusés. Et donc, dans ces comptes rendus du chapitre qui sont secrets, dans celui qui intéresse Joachim du Bellay et qui a été traduit par Sébastien Nadiras aux Archives nationales, c'est un compte rendu qui est absolument exceptionnel. Le chapitre ne digère pas le fait que Joachim du Bellay demande à être inhumé à Notre-Dame, enfin que la famille le demande, et ils vont se venger de deux façons. Il faut qu'il soit inhumé immédiatement, alors que d'habitude on entendait 3 voire 7 jours. Là, on délibère et c'est immédiatement. Et ensuite, il faut que ses deux oncles règlent l'inhumation, si vous voulez, ce qui leur est dû. Et on sait qu'en fait, les deux oncles n'ont jamais réglé. Il y en a un qui décède, Jean du Bellay, donc celui qui est second de l'Église catholique, décède 6 semaines plus tard à Rome, complètement ruiné. Il a mené un train d'enfer fantastique. Il disait lui-même, vous ne vous rendez pas compte combien ça revient cher de vivre à Rome. Et l'autre le détestait, Joachim du Bellay. C'est d'ailleurs une autre partie de cet ouvrage, de savoir pourquoi était-il tant détesté?
Alors justement, il y a pour valider en quelque sorte cette identification, les fouilles ont montré qu'il avait été inhumé un petit peu à la va-vite quand même, parce que comme vous le dites, le cercueil en plomb n'est pas dans l'axe de la nef, il est un petit peu travers.
Il a été mis dans une vieille tombe qui a été réoccupée sur un mauvais remblai, puisqu'il se retrouve en oblique. Notamment, ces cercueils en plomb avaient quand même initialement plusieurs fonctions. Une des fonctions, c'était de garder l'intégrité du corps, parce que on pensait que lorsque la trompette sonnera à la fin des temps, on confondait un peu la résurrection des chairs et la résurrection de la chair. D'accord. Donc on pensait que celui qui allait ressusciter ressusciterait tel qu'il était. Donc il y avait cette idée de bien conserver les sujets, donc de les mettre dans un élément en plomb, qui est un élément qui tue les bactéries et qui, lorsqu'il est conservé, dans celui de Joachim du Bellay, il y avait des trous, mais s'il n'y a pas de trous, peut conserver un corps plus ou moins intact. Et en même temps, il est fait sur mesure, et donc le sujet ne peut pas bouger, les os ne vont pas bouger. Alors celui de Joachim du Bellay est très très particulier, il décède d'une méningite chronique, on sait qu'il décède paralytique, il devait être cachectique, c'est-à-dire qu'il devait avoir que la peau sur les os. D'ailleurs, le seul portrait qui pourrait être de lui, qui a fait bien des années avant son décès, relève un sujet qui ressemble tout à fait, je dirais, à cette description. Et en même temps, ce cercueil est beaucoup trop grand pour lui. Donc on a l'impression, si vous voulez, d'un cercueil qui n'était pas fait pour lui, quoi, puisqu'on sait qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les plombiers, qui en fait, le rôle était de mesurer le cadavre et de faire un cercueil sur mesure. Alors, si on lui demandait d'être inhumé juste après, alors vraisemblablement, la réunion du chapitre a lieu le matin, et on sait que le chapitre décide qu'une messe qui doit être dite après vêpres est reportée au lendemain. Donc ce qui veut dire qu'en fait, ils ont laissé à la famille, en gros, l'après-midi pour s'occuper, quoi.
Et donc, effectivement, plus ça va, plus on se persuade de l'identification de ce cadavre avec Dubélé. Les caractéristiques de la maladie, les caractéristiques du cercueil de plomb, tout ça nous amène quand même vers un individu malade toute sa vie, ou presque.
Oui, alors, donc, la question qui se pose, c'est de savoir... Alors, curieusement, quel âge avait-il? C'est une question qui est posée. Il est certainement décédé vers 35 ans. Il y a eu beaucoup de polémiques à la fin du 19e siècle, etc., pour savoir vers quel âge il était décédé. De toute évidence, il décède vers 35 ans. Et ce qui corrobore ce qu'on avait pu observer sur le squelette. Et effectivement, c'est quelqu'un qui va être malade. Et ça, sa poésie et certains de ses écrits, et puis ceux de ses contemporains, le montre qu'il va être malade pendant une dizaine d'années avant de mourir, avec d'ailleurs des hauts et des bas, mais il a un déroulement de sa maladie qui se calque parfaitement sur ce qu'on connaissait sur certaines descriptions de la tuberculose au 19e siècle, c'est-à-dire à une époque où on ne connaissait pas les antibiotiques.
Alors justement, ça nous amène à évoquer, je dirais, ce malade et cette maladie, la tuberculose que l'on imagine parfois, je dirais, presque arrivant au 19e siècle, dont on s'aperçoit qu'elle est appelée la peste blanche et qu'elle amène beaucoup plus loin dans l'histoire. Est-ce qu'il y avait des remèdes empiriques, sans doute, à cette maladie? Alors, avant, bien entendu, les antibiotiques.
Alors, avant les antibiotiques, il existait très peu de remèdes. Alors, il y avait même une question, la question qui se pose, celle du diagnostic. En fait, le diagnostic de tuberculose en lui-même n'a été effectué qu'au début du 19e siècle. Et c'est qu'à la fin du 19e siècle, on a su qu'il était dû au bacille de corps. Mais avant, à l'époque de Dubélé, il n'y avait pas de diagnostic de tuberculose. C'est-à-dire que toutes les affections dont il se plaignait étaient considérées certainement par ses médecins comme autant d'affections diverses. Donc il n'y avait pas ce diagnostic de tuberculose. Et les grands remèdes étaient... Donc on a pu montrer que Joachim Dubélé était certainement suivi par les meilleurs médecins de son époque. Hein. Et les remèdes qu'il y avait étaient, par exemple, le changement d'air. Ça, c'était un grand élément. C'est peut-être un des éléments qui a rarement été cité par ses biographes, mais qui aurait pu inciter son oncle à lui demander de le rejoindre à Rome. Oui. Le changement d'air qui était connu, cité depuis l'époque romaine comme facilitant l'amélioration, et qui d'ailleurs, je dirais, c'est le cas des sanatoriums, qui était, je dirais, qui pouvait marcher dans plus de 50% des patients et des patientes. Donc le changement d'air vers un air qui était un meilleur climat, en fait, plus chaud. Donc ça marchait. Ensuite, on essayait de traiter les symptômes, par exemple avec de l'hysope, qu'on a retrouvé dans son cercueil, ou de la sauge, qui était très utilisée contre la toux. La sauge, la toux, et dans le cas de sa méningite chronique, des pains de glace sur la tête pour diminuer les douleurs, les céphalées énormes.
Et alors, justement, c'est un moment important de la vie de Dubélé, ce sanatorium a l'air en plein air, qui est Rome.
Oui.
Alors justement, qu'est-ce que Rome au moment, durant les trois années où Dubélé s'y trouve?
Or, Dubélé est amené à Rome par son oncle. Son oncle était un émissaire du roi. Alors on se trouve à une période très particulière de l'histoire de France, puisque il n'y a pas encore de guerre de religion, mais il commence à y avoir une scission très nette entre les catholiques et les protestants. Et cette scission entraîne un concile qu'on appelle le concile de Trente, qui va se tenir en plusieurs sessions. Et Jean Dubelier est envoyé à Rome, non pas, il n'y avait pas de session du concile à ce moment-là, mais simplement pour arranger les affaires du roi de France avec le pape. Le roi de France était très particulier, il avait décrété une église qu'on appelait gallicane, c'est-à-dire que lui, c'était considéré que Rome avait simplement un pouvoir spirituel. C'est par exemple, comme je l'ai dit, c'est lui qui nommait les évêques. Ce qui, en gros, lui permettait quand même de conserver l'économie du royaume, puisque c'était les abbayes rapportaient beaucoup, je dirais, dans sa main. Et Jean Dubelier est donc envoyé à Rome, et là, il va y avoir toute une succession de papes, puisqu'il y a une année où il y a eu quand même trois papes. D'accord, un premier pape décède, un second qui, pour lequel on a, je dirais, beaucoup d'espoir, on a tellement d'espoir en lui, il va tellement réformer l'Église que son règne dure 21 jours. Il meurt empoisonné.
On a connu ça en 1978 aussi.
Voilà, c'est ça. Et les circonstances étaient un peu similaires. Et ensuite, il y a un troisième pape qui arrive. Jean Dubelier espère être nommé pape, être élu pape, mais il ne l'est pas. Mais de toute évidence, là, les choses sont assez ambiguës. Il y a peu de documents historiques et ceux qui y sont, sont assez ambiguës. Il espérait d'être nommé pape puisque le matin du concile, le matin justement où on va élire le pape, il donne son testament. Il teste, comme on dit à l'époque, ce qui montre qu'il se méfiait de l'empoisonnement. Mais il n'est pas élu, et en revanche, il doit passer du côté de celui qui est élu, qui va lui donner un évêché prestigieux, des charges importantes. Mais il va très rapidement quand même se méfier de ce pape Carafa, qui va faire changer complètement l'Église. C'est-à-dire que en quelques années, on était face à une période qui était finalement, malgré les conciles, très tolérante. C'est-à-dire que quelqu'un comme Ronsard, comme Dubelier a quand même écrit des poèmes dans lesquels il se vante, alors qu'il avait été tonsuré, c'est-à-dire qu'il était presque dans les ordres, si vous voulez. Il se vante de ses nuits avec une femme mariée. Enfin, je veux dire, tout ça ne portait pas à l'époque grand-chose. Il le dit lui-même. Enfin, mon oncle, tout ça ne sont que galanteries et bien, bien chastes oreilles qui pourraient s'en offusquer. Donc, c'est ce qu'il écrit. Mais en 3 ans, tout change avec ce pape, qui rétablit les bûchers, d'ailleurs, pour les sodomites, pour les juifs, etc. Et ce qui fait que la fin de vie de Joachim Dubelier va être catastrophique, parce que il était le roi décède, il va plus être protégé par le roi, il est revenu en France, donc ça se passe assez bien, mais quand le roi décède, il est plus protégé par le roi, et ses écrits qu'il avait écrits 3 ans auparavant et qui lui semblaient aller de soi, d'accord, dans les regrets, sont en fait jugés de façon calamiteuse par le pape, et qui va mourir d'ailleurs. Et c'est assez intéressant parce que le pape décède et Joachim Dubelier ne se rend pas du tout compte, parce que son oncle écrit à un de ses amis: mais mon neveu ne réalise pas que si le pape n'était pas décédé, il y aurait eu un scandale terrible. Et donc, mais Joachim, lui, il est resté à Rome, il voit pas que les temps ont évolué très rapidement.
Et alors, on connaît l'importance de ce séjour à Rome pour Dubelier, qui parlait parfaitement le latin, comme beaucoup de lettrés d'ailleurs à son époque. On connaît bien l'influence de Rome pour la poésie de Dubelier, mais par contre, on ne parle jamais de cette maladie, de la maladie qui le ronge précisément pendant les années où il écrit, que ce soit en France, que ce soit à Rome. Quel est, à votre avis, d'après ce que vous pouvez voir, puisque vous citez de nombreux sonnets de Dubelier qui montre précisément ces liens qu'il y a entre la souffrance qui est la sienne et la poésie qu'il est en train d'écrire, comment voyez-vous cette incidence de la maladie sur la poésie de Dubelier, avec un œil à la fois, je dirais, d'amateur de poésie, mais aussi de médecin?
Alors, ce qui est effectivement là, je dirais qu'il a fallu attendre les années 30 pour que un bibliophile et un médecin qui était un spécialiste de la tuberculose disent dans un article qui est resté assez fameux, mais enfin, d'après tout ce qu'écrit Dubelier et ce qu'on a écrit sur lui, il avait une tuberculose. D'accord. Donc là-dessus, je dirais que je n'ai pas été le premier. Mais cet écrit, en fait, est connu dans les milieux médicaux. Et Il est connu de certains de ses biographes, mais ses biographes, la seule chose qu'ils arrivent à en dire, c'est Dubelé, ce poète qui était un malade, mais qui n'écrivait pas comme un malade. C'est-à-dire que on lui refuse même sa maladie. D'accord. Et ça, c'était une attitude qui a été assez classique. Hein. Il faut attendre les années 1950 pour que certains philosophes commencent, et médecins commencent à dire « Attention, l'homme malade, c'est pas quelqu'un qu'on sépare de sa maladie, c'est une entité. » Donc, je dirais qu'avant les années 1950, c'est quelque chose qui n'existait pas. D'accord. Et même à l'époque de Dubelé, Dubelé s'excuse au roi du fait qu'il soit chétif, par exemple. Il écrit très clairement, quoi. Donc, il y avait cette idée de nier un peu sa maladie, mais tout de même, dans certains de ses écrits, il va faire part de sa maladie. Alors, ce qui est intéressant, et ça, c'est, je dirais que je m'en suis aperçu, en fait, comme d'habitude, un peu par hasard à propos d'un de ses écrits, ensuite j'ai tout repris, c'est que la plupart des écrits où il va décrire sa maladie ne sont pas publiés de son vivant, mais après sa mort. C'est-à-dire qu'il le cache. Et Ronsard, qui était, à un moment de sa vie, son plus proche ami, quand il le voit très mal, et va écrire un sonnet au moment où ça va un peu mieux. Et Ronsard a écrit un sonnet fameux qui s'intitule « De la convalescence d'un ancien ami ». Et deux mois après le décès de Dubelé, il réécrit, il refait publier ce sonnet sous le titre « De la convalescence de Joachim Dubelé ». C'est-à-dire qu'il fallait cacher, en quelque sorte, au monde qu'on était malade, parce que dire qu'on était malade à cette époque avec une toux, des éléments, assez terribles sur son état, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que les mécènes allaient se risquer de se détacher de vous, fort même à leur insu, si vous voulez, parce qu'on pensait que de toute façon, la mort allait venir. C'est ce qui d'ailleurs est arrivé au poète. Donc, il a d'une part fait part de sa maladie dans certains de ses poèmes, de façon très claire. Dans La complainte du désespéré, qui est un poème fameux qu'il a écrit au début de sa maladie, enfin au début, au moment où elle devient sévère, il a une première atteinte de méningite chronique à peu près 8 ans avant sa fin. Et là, il écrit un poème, quand il va un peu mieux, qui s'appelle La complainte du désespéré, qui reprend ce qu'ont dit certains poètes latins à propos de la maladie, mais il va donner tous les signes de sa méningite chronique. Et, alors, c'est très intéressant parce qu'il les donne tous. On a l'impression c'est véritablement pour le médecin d'aujourd'hui une description typique de la méningite chronique. Il n'y a pas un signe qui échappe, si vous voulez. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Et ensuite, il va en parler dans certains de ses sonnets, mais certains de ces sonnets-là seront publiés qu'après son décès. Et surtout, 3 mois avant son décès, il écrit à son meilleur ami une lettre qui, en fait, était une espèce de poème qu'on écrivait à l'époque, une élégie qui reprenait des éléments romains où on allait décrire sa vie, si vous voulez. Et elle sera publiée, elle aussi, qu'après son décès. Et là, il décrit en fait toute sa maladie sur les 10 ans qu'elle a duré. Quoi. Il en fait une description parfaite avec des hauts et des bas. Donc, 10 ans avant, il est sérieusement malade. Puis ça va un peu mieux. Il peut partir à Rome. Il fait 1600 km à cheval, mais en fait, il va quand même faire un œdème du poumon au milieu. Par exemple, il a ce vers fameux qui est ce mont Gibel que je dégorge. D'accord. Quand on n'est pas au contexte, on peut se demander qu'est-ce que c'est, quoi. En fait, il décrit un œdème aigu du poumon, et l'œdème aigu du poumon va s'accompagner d'une rosée, une salive un peu sanglante. D'accord. Ce mont Gibel, en fait, mont Gibello, c'était l'Etna à l'époque. Donc, ce mont Gibel que je dégorge, ça veut dire qu'en fait, il a de la rosée, de la mousse rosée dans la bouche. D'accord. Et il dit qu'à ce moment-là, la saignée fut salvatrice. Alors que la saignée, elle est évidemment, bien critiquée par de nombreuses personnes, à commencer par Molière, Et c'est vrai que ça tuait pas mal de patients, sauf en cas de d'œdème aigu du poumon, où ça vous sauvait. Et là, il écrit ce poème, Salvatrice saignée, publié après son décès.
Et cette souffrance physique s'accompagne de souffrance morale, parce que un certain nombre de ces poèmes où on ne voit pas de description de maladie, on voit quand même une mélancolie. On connaît bien le le sonner là, où est maintenant ce mépris de fortune, où est ce cœur vainqueur de toute adversité. Est-ce que c'est courant, est-ce que c'est fréquent de voir aussi des malades chroniques comme les tuberculeux, par exemple, avoir de ce que nous appellerions maintenant une dépression?
Alors, ce que j'ai pu montrer à travers cet ouvrage, c'est qu'effectivement, il était ni mélancolique au sens où on l'entendait à son époque, ni neurasthénique au sens où on l'entendait au 19e siècle, mais ce qu'il a réellement eu, c'est une dépression. L'entité dépression n'a été véritablement reconnue que par les médecins que dans les années 1960. Pourtant, lui, il en présente effectivement tous les signes. Et de cette dépression, d'ailleurs, la question qui se pose, puisqu'il est surtout connu par les regrets qu'il écrit à Rome, il écrit à Rome les regrets. Le titre à lui-même est un titre de dépressif, hein, je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a, il va avoir que des regrets en fait. Et c'est très intéressant parce que justement, quand on met en parallèle sa biographie, c'est-à-dire ce qu'il faisait, d'accord, et le résultat, c'est-à-dire les regrets, il y a deux choses. Il y a d'une part au milieu sa maladie, parce que sur ce qu'on peut voir de l'extérieur, il était devenu un homme portant, si vous voulez. Il gagnait largement bien sa vie, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Il se plaint qu'il n'avait peut-être pas tous les succès féminins qu'il pourrait avoir, mais en fait, dans d'autres écrits, il décrit des éléments qui sont sans ambiguïté à ce sujet.
Il pouvait avoir aussi des succès masculins.
Et des succès masculins. Donc, il avait des succès féminins, des succès masculins. Il avait de l'argent, d'accord, puisque Rabelais, avant lui, était passé au service du cardinal et décrit la vie à Rome. Donc, on pourrait croire de l'extérieur qu'il avait tout. Et en fait, la vie, en raison de sa maladie, lui paraît très sombre, d'accord. Il n'a pas eu réellement ce qu'il voulait, parce qu'on sait que sur la fin de sa vie, il déclare à un historien, enfin à quelqu'un qui ensuite le donnera à un historien, le dira à un historien, qu'il ne deviendrait jamais aussi riche que son oncle, d'accord. Les succès féminins, il en a eu, mais il dit que finalement, les courtisanes ne le regardent pas, d'accord. Et il est en fait complètement dépressif, et il va remettre donc en question, et c'est ce qui se fera sa modernité, le monde autour de lui. C'est-à-dire que il va voir dans Rome, je dirais, tous les travers de Rome. C'est-à-dire, il le dit lui-même, les mots ne sont pas de moi, les cardinaux qui font l'amour dans leur carrosse, d'accord, un éleveur de singes qu'un pape avait repéré dans la rue et qui lui plaisait, et pour vivre avec, le pape prend cet éleveur de singes, par une bulle papale, le fait adopter par son frère, et une fois qu'il est rentré dans sa famille, le fait nommer cardinal, d'accord. Et ça, Dubelet le supporte pas. Pourquoi il le supporte pas? Pour différentes raisons. D'une part, parce que lui était issu de la noblesse, et penser que quelqu'un qui n'était pas noble puisse devenir cardinal, ça lui semblait impensable. Et d'autre part, parce qu'il a que des regrets, mais on voit que là, je dirais qu'il y a une puissance derrière, mais la puissance, elle est réellement, c'est pas celle de, par exemple, de son oncle, le cardinal Jean Dubelet, qui était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et de l'autorité de dérision. C'est quelqu'un qui a cette puissance de celui qui est en fait complètement désespéré derrière de voir ça.
On va revenir à Notre-Dame pour terminer notre entretien, mais c'est surtout, je dirais, à vous que je voudrais m'adresser. Comment sort-on de cette aventure entre un cercueil de plomb et un poète?
On essaie d'en sortir. On essaie d'en sortir parce que il s'est passé cet élément dont je vous ai parlé en début de notre entretien, où finalement, je travaillais sur d'autres choses, et puis par hasard, je me suis lancé dans l'aventure du Belay tout à fait par hasard. Et ça m'a pris pendant un an, mais je dirais que ça m'a pris, ça m'a beaucoup pris, en ce sens que tout ce que j'ai pu mettre en évidence, c'est lié à des documents qui, pour certains, sont inédits, mais pour beaucoup d'autres, venaient de relations qui étaient faites à droite et à gauche. Et comme j'étais complètement j'étais immergé dans la vie de Dubelet, j'ai retrouvé les relations. Si vous voulez. Par exemple, sa généalogie est très difficile. Je veux dire. J'ai refait sa généalogie, je le disais souvent à mes amis, mais deux mois avant la fin du bouquin, je vivais dans la famille du Belay. J'avais pas besoin, tout à l'heure, avant notre entretien, vous me disiez, et Eustache, oui, non, mais Eustache, il était évêque de Paris, mais c'était aussi le père de Jean du Belay. Donc j'arrivais à voir un peu tout ça. Et donc j'ai vécu effectivement quasiment avec les du Belay pendant quelques mois. Et maintenant, il faut, je dirais, passer à autre chose, oui.
Mais est-ce que avez-vous des regrets de ne pas pouvoir être allé plus loin? Est-ce qu'il y avait possibilité d'aller plus loin que ce que vous avez, parce que ce que vous avez dit, vous avez trouvé des choses absolument extraordinaires. Enfin, je veux dire, est-ce que vous pensez qu'il y avait quelque chose à faire de plus, et aussi que sont devenus ces cercueils?
Bon, savoir s'il peut faire quelque chose de plus. Je dirais que j'ai arrêté parce que un ami, Darwin Smith, qui est le spécialiste de Notre-Dame, est venu me voir à Toulouse avec moi parce que j'avais demandé de venir pour, étant moi-même, je dirais, lui étant un très grand spécialiste de Notre-Dame, je voulais qu'il relise certains passages pour savoir si, entre nous, je n'avais pas fait des erreurs. Quoi. D'ailleurs, il en a corrigé certaines. J'explique lesquelles dans mon ouvrage, cette histoire de petites portes, etc. Et il a eu cette remarque à la fin de notre entretien. Il m'a dit, tu sais, Eric, maintenant, il faut arrêter. D'accord. Il m'a dit, tu as fait le réseau, mais c'est sûr qu'après le réseau, tu peux avoir un autre réseau, etc. Il dit, mais tu vas devenir fou. Donc, il faut arrêter. Et je pense que j'ai fait le tour. Alors, est-ce peut-être qu'un jour... Il faut voir qu'il y a beaucoup de manuscrits de cette époque qui n'ont jamais été déchiffrés. En fait, ils ont été lus souvent par des érudits du 19e siècle, mais ils n'ont jamais été publiés. Or, si un érudit avait noté Joachim du Belay, il est possible qu'il l'aurait noté. Donc, peut-être qu'il reste des éléments encore, y compris dans les archives de Notre-Dame, si vous voulez, qui sont loin d'avoir tout été déchiffrés. Donc, il est possible qu'il reste des éléments, mais là, je dirais que c'est pour les historiens à venir. Donc, ça, c'est un premier élément. Et le deuxième, les cercueils sont actuellement déposés à l'INRAP, tout comme les restes. Ils ne reviennent pas à moi, bien évidemment, c'est au ministère de la Culture de savoir ce qu'ils vont devenir. Dominique Garcia, qui dirige l'INRAP lors de la conférence de presse et qui finalement est, je dirais, quelque part responsable de l'ensemble des fouilles, a souhaité que si ces restes doivent revenir à Notre-Dame... Il semblerait effectivement qu'il faudrait que tous les restes reviennent, qu'on n'isole pas simplement Joachim du Belay des autres. Si vous voulez, il n'y a plus, après 4 ou 5 siècles, il n'y a pas de raison de permettre le retour pour un seul. Si vous voulez, il faudrait qu'ils y reviennent tous. Je pense que c'est une décision qui serait assez sage.
Eh bien, Éric Rebeugy, on vous remercie pour ces éclaircissements sur ce livre passionnant, sur un cold case presque du XVIe siècle. Merci et au revoir.
Merci à vous, Patrice Brun.